Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tu as 0 points, c'est qu'il va falloir prendre des points.
Il faut prendre 3 points, mais chaque match vaut 3 points.
C'est capital, les 3 points qui sont en jeu demain.
Pour nous, ça reste un match à 3 points.
C'est plus que 3 points ce soir ?
Ben non, c'est 3 points.
On a pris les 3 points. C'était bien pour nous parce qu'on a pris 3 points ce soir. Après, prendre les 3 points, c'est magnifique. Mais nous, on est contents parce qu'on a pris les 3 points ce soir.
La coupe concerne tout le monde. On est surtout contents d'avoir pris ces 3 points.
Mais on mérite les 3 points.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h de l'after est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs évidemment, de l'année, tous les étés, pendant les fêtes, on est là tous les jours parce que l'actu du foot se renouvelle tous les jours, c'est magique. Elton Mokolo est là, David Glusman et Nicolas Pelletier. Après avoir parlé de Ligue 1 Plus, on va parler de Janine Fontillo dans quelques secondes, mais d'abord, un point sur la réorganisation du match Rennes-PSG qui devait être PSG-Rennes et qui devient donc Rennes-PSG. On en a parlé longuement hier soir. Les infos du jour sont les suivantes. Déjà, le COP Rennais, qui normalement devait être suspendu pour le premier match à domicile, restera suspendu pour la deuxième journée. C'est ce que voulaient les Rennais, on l'expliquait hier. Donc ça a été confirmé aujourd'hui par la Ligue. Donc ce sera pour le match face au Mans. Et là, Rennes-PSG, donc ce morceau de tribune ne sera pas inoccupé. Et alors là, surprise quand même, parce que hier on disait bon, s'organiser, comment ils vont faire en 4 jours, le public va-t-il être là ? Et ben là, d'ores et déjà, match à guichet fermé, avec des places moins chères que d'habitude. Alors hier, on annonçait des places à 50% moins chères, finalement, les Rennes, ils se sont dit bon, quand même, pas abusé, ils ont fait 40%. Voilà. On dit bon quand même, il y a un peu
des sous, c'est des sous.
Il voilà, y a un peu
faut
de thune,
pragmatique.
Hein, faut être pragmatique. Mais le club équipe quand même, le club explique quand même, et on le comprend, qu'il y a un manque à gagner parce qu'il y avait déjà organisé le déplacement de l'équipe, tout ça pour le déplacement. Il y a une baisse de la billetterie malgré tout. Il y a des frais supplémentaires d'organisation qui n'étaient pas prévus, la Sécu, les loges et compagnie. Donc le club dit bon, finalement, ça va pas être une opération financière hyper intéressante pour nous. Mais tout de même, guichet fermé puisqu'on avait plus de 60 000 personnes connecté simultanément pour avoir une place sur le site du club cet après-midi.
Et avec 1000 Parisiens.
Voilà. Et alors, autre élément important. Hier, on expliquait que les Rennais considèrent qu'ils sont stade de repli et que ce n'est pas une inversion. Et que donc, le match retour devait aussi se jouer à Rennes. On l'a dit hier, on a donné les arguments des Rennais hier. On apprend aujourd'hui que la commission des compétitions se réunira donc le 28 août. Nicolas, pour décider ce qui va se passer.
Oui, donc après le match, elle doit juste statuer, elle va convoquer les deux équipes. Les deux équipes vont expliquer leurs arguments. Et donc, après le 28 août au soir, normalement, on va connaître la décision. Soit ils inversent la rencontre et donc le match se jouera au Parc des Princes, le match retour. Soit ils confirment que le match retour...
Ce qui va se passer, je te le dis tout de suite.
Voilà, et donc soit ils confirment
donc,
que le match
va aller,
retour...
Va y avoir un recours.
Recours devant le CNOSF, tu peux aller devant le CNOSF si...
Après le tribunal administratif, Cour européenne des droits de l'homme...
Bordeaux peut leur faire un petit tutoriel, hein. Je pense qu'une Monero, mais CNOSF, ils commencent à...
Tu vas voir que c'est parti pour un feuilleton, c'est sûr et certain. Parce que Rennes, ils vont pas se laisser faire.
Exactement. Mais tout repose sur les deux mots qui sont dans l'article. Voilà, sur l'article 500.1
de savoir si la canicule est une circonstance exceptionnelle.
Bah, Rennes dit que non. Et le PSG dit que oui.
Ou plutôt les champignons. Le champignon, en l'occurrence.
Non, là, le PSG, dans son communiqué, parle vraiment de la canicule. Ah, okay. Il parle même plus de champignons. C'est vraiment la canicule. Alors qu'à 40 mètres à côté, il y a un stade Jean Bouin et qui
assure. Okay, il y a Laurent Romesco qui va être appelé à témoigner.
Le champignon, il n'est pas à Jean Bouin.
Ah non, Jean Bouin est prêt.
La Rennes, il faut qu'ils peuvent utiliser ça comme argument.
Je pense qu'ils utiliseront ça, mais en tout cas, le stade de Jean Bouin est prêt pour disputer la deuxième journée de.
Et donc, quel camouflet pour le super jardinier du PSG, quand même.
Après, peut-être qu'il y a les deux. Les pelouses ne sont pas
les mêmes, mais c'est juste que la comparaison est facile pour le grand public.
Ouais, c'est ça.
Tu te dis à 40 mètres, il y a un.
Ouais, parce qu'il y a un caractère spécifique, pelouse du parc, pelouse de Jean Bouin. Ouais.
Tiens, on a Evan qui est supporter rennais. Bonsoir.
Il était déjà là.
Bonsoir, Gilbert.
Salut, Evan. Bonsoir, salut, Evan.
Tu vas au match dimanche ?
Malheureusement, non, j'ai été pris de court. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est ce que je disais, c'est que. Enfin, pour moi, on est légitime à demander les deux matchs à domicile. Enfin, nous, c'est pas notre problème. C'est Paris qui a pas du tout anticipé la chose, quoi. Donc, il y a un moment, à quel moment on serait responsable? Enfin, on est tout à fait légitime à demander nos deux matchs à domicile. Point barre.
Oui.
Basta.
Mais je suis désolé de te casser le moral, mais je suis sûr que tu les auras pas.
Bah, je sais bien. Mais on est dans notre droit. Et franchement, si Paris, en fait, on se coucherait devant l'ogre parisien, quoi. C'est le Paris qui est tout puissant sur la Ligue 1.
Alors non, être précis, si Rennes reste sur cette position-là, Rennes ne se couchera pas, mais Rennes va être forcé par la Ligue.
Par la Ligue.
Non mais Evan, c'est beaucoup plus complexe que ça, à savoir que il y a un fait qui est un cas de force majeure, à savoir notamment cette canicule qui a impacté
après,
la pelouse.
Après, ce que dit Rennes, c'est que la canicule a impacté toute la France.
Ouais, mais après il y a aussi le caractère spécifique du Parc des Princes qui fait que, et donc forcément il y a aussi une étude ou plutôt un verdict.
C'est quel caractère spécifique?
On va parler stade bétonisé avec tout ce que ça peut comporter.
Ouais, il y a des stades en bois aussi.
Du Paris.
Non mais je comprends ce que dirait Elton. Oui. Particularité avec le périphérique,
c'est
en tout, etc.
Voilà, c'est là où je voulais en venir.
Moi, pourquoi ils ont pas pris la méthode de Lille à l'époque? À Lille, ils peignaient la pelouse en vert. Mm-hmm. On l'a vu. Il y a eu une finale de Coupe de la Ligue, Guingamp-Strasbourg. Moi, je me souviens très bien, la veille, j'étais là-bas, il y avait le patron du stade qui nous a fait visiter. Vous savez, la pelouse, elle est magnifique. En fait, personne ne savait qu'ils avaient fait peindre en vert des morceaux. Tu vois. Et donc, les joueurs faisaient des tacles et les shorts étaient verts. C'est surréaliste quand même. Donc tu peux toujours t'arranger.
C'est là où on tombe de base.
Non mais avec le réchauffement climatique, la circonstance exceptionnelle de la canicule, bon.
Après le PSG était plutôt favorable à un report du match lors de la négociation, mais vu qu'il y avait plusieurs étapes. Après avoir constaté que la pelouse était impraticable, Rennes a directement accepté l'inversion, le fait que ça se joue à Rennes, et donc on n'a pas eu à négocier
On rembobine, c'est lundi que voilà il y a la constatation et mercredi la décision est prise.
Non, ils ont été constatés hier matin avec des experts de la LFP, voilà. Et un délégué de la LFP. Alors, ils ont été au Parc des Princes.
Je me mets dans la peau d'un Rennais, Evan. Les Rennais peuvent aussi dire nous on est bien sympa parce qu'on aurait pu refuser.
Mais moi, je me suis dit aussi, ils auraient pu.
Et dire,
ils auraient pu aller jusqu'au fait de se déplacer à Paris dimanche.
Et prendre les trois points
possible.
Bon, donc, Evan, tu dis, mon club ne doit pas lâcher le morceau, quoi.
Mais bien sûr, on ne doit pas lâcher le morceau. C'est pas parce que c'est Paris qu'on doit lâcher le morceau. Point barre. On est tout à fait légitime. On doit aller au bout. Et on doit, pour moi, oui, on doit jouer les deux matchs à domicile, voire aller chercher la victoire sur tapis vert si les Parisiens font des pieds et des mains pour jouer chez eux le retour. Je suis désolé.
Après, tu sais très bien, Evan, que pour l'image de la Ligue 1 2026-2027, Rennes ne peut pas jouer 18 matchs à domicile parce qu'au-delà du PSG, les 16 autres clubs de Ligue 1 vont gueuler. Ils vont se dire, pourquoi Rennes joue 18 matchs de Ligue 1?
Mais c'est un cas de force majeure.
Là, tu ouvres la boîte de Pandore, simplement.
Très bon argument d'Elton, parce que Rennes qui finit par exemple à la dernière journée un point devant une autre équipe
pour une qualif en Coupe
d'Europe. Attendez, pourquoi eux ils ont joué effectivement 18 matchs à domicile plutôt que 17?
Là tu crées une émeute footballistique avec les autres.
C'est bien pour ça que Rennes, malgré tous les bons arguments qu'ils peuvent avoir, ils n'auront pas leurs deux matchs face au PSG à domicile. Evan, merci en tout cas, c'était
merci
sympa de t'avoir. À très bientôt, bonne soirée. On me dit que Roger est là, mais que se passe-t-il? Roger, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Gilbert Bouybrois.
Bonsoir, Roger.
Pas content du tout. Ouais,
voilà. Je vois arriver Roger sur mon écran, mais je donne la priorité à Roger.
Eh oui.
Mais pourquoi t'es pas content?
Mais hier soir, il y a maintenant.
Je rappelle que tu es supporter du PSG, hein, je le précise.
Mais en football, c'est la France des pleureuses. Je crois qu'il faut que je sache Lotus, c'est qui fabrique Lotus, de quel pays.
Ah, les mouchoirs.
Parce qu'il faut qu'il y ait une cargaison de paquets de Lotus pour les pleureuses françaises.
Mais voilà. C'est qui les
Alors,
pleureuses?
C'était le match reporté, mais je dis toujours à M. Gilbert, à M. Rotten et toute la clique qu'il y a des articles de loi, on n'a qu'à les changer quand on ne veut pas les appliquer. Il y a maintenant l'histoire de la pelouse. OK, mais pourquoi Rennes ne refuse pas de prendre ce match-là? La première chose que Rennes a à faire, c'est de dire non, le match retour était à Hosen Park. Mais non, je ne prends pas ce match. Ce n'est pas à moi de l'assurer. Alors, il laisse la patate chaude au Paris Saint-Germain, à la Ligue. Mais comme Ligue Plus a besoin de mettre son match en pleine taille, il faut le faire.
Eh oui, t'as raison.
Ben oui.
Voilà. Alors aujourd'hui, j'entends les Rennais pleurer. Mais les gars, arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. C'est pas parce que vous allez jouer les deux matchs, c'est vous que vous allez les gagner pour autant.
Ça, c'est pas
je
faux.
Je trouve qu'on fait trop d'histoire pour rien.
Mais eux, ils veulent juste appliquer les règlements, Roger, t'es d'accord? C'est une application stricte du règlement.
Quel règlement?
Le règlement qui est codifié, quoi. Tout simplement.
Quel règlement? Explique-moi le règlement. Bah. C'est comme c'était le règlement pour le match reporté. C'était dans les règlements de la Ligue, le match reporté de Lens. Et vous en avez fait toute une histoire. On n'a qu'à changer les règlements.
Enfin, excuse-moi, c'est peut-être dans le règlement, mais Lyon l'a demandé là en août, on leur a dit non. Le match reporté.
Ah, il faut demander à la Ligue alors. Mais c'est dans le règlement. Donc, ou pas,
Gilbert? Bah écoute, moi je sais plus, puisque le PSG l'a eu et Lyon l'a
Gilbert,
pas eu.
Gilbert, tu as les règlements de la Ligue, est-ce que c'était dedans?
Alors, c'est pas dans le règlement, c'est un usage en vérité. C'est un usage
qui est d'accord. Voilà. Ah, mais si on n'est pas d'accord, on les change les usages.
Bah écoute,
là, pourquoi
Rennes toi, Roger, supporter du PSG, tu nous dis ce soir, Rennes aurait dû dire au PSG, démerdez-vous, nous on n'accueille pas le match.
Bien sûr, comme ça. Mais ça arrange Rennes de prendre le match parce que ça leur fait une billetterie, ça leur fait regarder hier, quand j'entendais, ah ouais, ça serait dans. Pas remplir le stade en un jour, guichet fermé.
Ouais, ils disent que ça va quand même leur coûter de l'argent, parce que c'est organisé sur les dernières minutes et
oui,
tout.
Oui. Bon. On est d'accord, oui, j'y crois.
Non, mais il y a d'autres choses à prendre
c'est
en compte.
C'est la rentrée de Roger, elle est tonitruante. Ouais.
Non, mais il y a d'autres choses à prendre en compte dans le stade, notamment les sponsors, etc. Donc, forcément.
Mais les loges, la sécurité,
voilà,
c'est
exactement.
Vrai qu'il y a d'autres choses à prendre.
Ça, ça coûte bonbon
comment
aussi.
Comment il s'appelle celui qui parle, j'oublie son nom.
Elton Mogol.
Le banquier.
Non, ah, David Guzman.
J'espère qu'il n'est pas au niveau du football en tant que banquier.
Qu'est-ce qui se passe, Roger?
Tu veux dire qu'il est meilleur en banquier qu'en analyse de foot?
Ah, j'en sais rien, je ne le connais pas. Je n'ai pas de banquier, moi. Pas d'argent. Parce que...
Bon, en tout cas, Roger, sache que Lotus, c'est suédois. Voilà,
ah ben je vais faire une commande pour les Français. Pour les Lensois, pour les Marseillais. Pour les Rennais se sont mis. Ils y étaient pas, mais ils se sont mis. Non, mais quand j'entends les supporters, ils disent non, mais les gars, ça suffit. Arrêtons, tranquille. Mais non. Gilbert, toi aussi. Qu'est-ce tu mets du piment dans la chose.
J'ai rien fait, moi. Je relaie les informations, Roger. Bon, en tout cas, je te souhaite une bonne rentrée, un bon week-end de Ligue 1.
Et merci du compliment, Roger.
Voilà. On va essayer. J'enchaîne tout de suite avec notre nouveau jingle, Gianni Infantino, bien sûr.
Yeah, I did. I spoke to Gianni.
Voilà.
Il est court,
mais il est efficace. I spoke to Gianni. Je rappelle que le t-shirt existe, lancé par l'After. C'est vrai. Il cartonne. Donc, tu bosses sur ce dossier-là. Là, on a parlé hier soir de Philippe Diallo qui va sans doute bientôt officialiser le fait qu'il ne soutiendra pas Gianni Infantino à la prochaine élection. Fais-nous un petit topo général là, sur ce qui se dit un peu de partout. Parce que là, hier, on en parlait avec Daniel. Daniel disait, Infantino, de toute façon, il ne sera même pas candidat en mars.
Bah alors t'as deux solutions, mais ça c'est on va pas vous l'apprendre ce soir, mais t'as deux solutions. Soit Gianni Infantino reste jusqu'en mars, mais il ne se présente pas, et ça l'UEFA, l'AFC, l'Asie, la Confédération asiatique, c'est ce qu'ils souhaitent, qu'il reste jusqu'en mars et puis qu'il sorte avec les honneurs et qu'il ne se présente pas au mois de mars à l'élection du congrès de Rabat. Ou alors il ne veut pas partir, il fait le forcené, il reste à l'intérieur de la FIFA. Et donc là, ils peuvent convoquer avec un cinquième des 211 fédérations au niveau mondial. Tu convoques un congrès extraordinaire dans les 3 mois. Et donc là, à partir de ce moment-là, mais si tu convoques le congrès extraordinaire, ce qui commence à vraiment bruisser dans les couloirs, hein, ce qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Mais si tu convoques ce congrès extraordinaire, il faut être sûr que derrière, tu aies les 106 voix pour renverser Gianni Infantino. Et ça, pour le moment, il y a toujours une incertitude parce qu'il y a de nombreux médias que je peux lire qui font un court résumé en disant, par exemple, la CAF, par exemple, si on prend la Confédération africaine de foot, pour eux, vu que la CAF a soutenu Gianni Infantino, pour eux, toutes les fédérations africaines pensent comme la CAF.
C'est si c'est uniforme.
Exactement. Ouais, c'est et c'est pas du tout comme ça. Quand tu prends l'Asie.
Problème, c'est est-ce que c'est un vote à bulletin secret ou pas?
Bonne question. Et ça,
ah oui, parce que ça change tout, en fait.
Et parce que
c'est à main levée, oui, c'est.
Mais surtout que quand tu prends les 55 fédérations européennes, que t'as les 35 de la CAF, donc là tu commences vraiment à avoir un bon contingent parce qu'ils sont
54 la CAF.
Et 54, bien évidemment, la CAF. là, celle qui peut faire la bascule, c'est l'Asie. L'Asie peut te faire basculer le vote pour ou contre Gianni
Samuel,
Infantino.
Samuel, le producteur ce soir, le dit, il a vérifié les textes en l'espace de 35 secondes, il est rapide. Élection à s'il y a conseil extraordinaire, à bulletin secret.
Donc voilà. Donc,
et ça, c'est pas bon pour Gianni Infantino. Pour Infantino.
Mais c'est soit l'Asie, alors ce qu'on me dit, hein, c'est pas, je fais que le répéter, mais c'est l'Asie qui peut te faire la bascule, parce que l'Asie, ça pèse quand même 46 voix, donc c'est énorme. Et donc là, sur les 46, même si on sait que le Qatar est encore derrière Gianni Infantino et tout, mais il y a certaines.
Écoute-moi, les FIFA, comme c'est les faux culs. Là, le texte dit que c'est un principe fondamental, le vote à bulletin secret. Je rappelle que la dernière fois que Gianni Infantino a été élu, c'était par acclamation.
Oui, j'y étais.
Par acclamation.
Il était seul en même temps.
Ça se faisait, tu sais, c'est Brejnev et Gromyko, Union soviétique, quoi. Et après, ils te disent que c'est un principe fondamental.
Après, Alexander Seferin a aussi été réélu par acclamation. Bon, après.
Pareil, c'est pas normal.
Non, c'est souvent
tu as au moins une
seul.
Élection.
Exactement.
Mais même si t'es seul.
Non, mais je suis d'accord.
Si tu te retrouves avec 60% de bulletins blancs ou d'abstention, ça veut dire quand même qu'il y a un problème, tu vois.
Donc, t'as vraiment l'Asie qui peut faire la bascule. Et puis, si l'Asie continue d'être avec l'UEFA et la CONCACAF sur le fait d'avoir un nouveau président de la FIFA, il faut surtout trouver qui peut devenir le nouveau président de la FIFA. Et pour l'instant, t'as de nombreuses personnes, on balance un peu les noms comme en politique française ou pour tester un petit peu l'opinion publique, mais t'as peu de personnes qui pour le moment montrent vraiment un charisme pour aller contre Gianni Infantino, à part Victor Montagliani qui est le patron de la CONCACAF, mais qui a aussi quelques dossiers un peu chauds sur lui. Donc,
il y en a beaucoup qui va être sûr de gagner avant d'y aller aussi.
Mais c'est le problème, c'est que si tu testes pas le nom...
Il y en a un... Il doit bouillir, c'est Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, avec le, j'allais dire le boulard, mais bon, avec l'assurance qu'il a.
L'ego.
Je pense que
la
lui.
La confiance en soi.
Voilà, avec la confiance en lui qu'il a, je pense que demain tu lui dis tu vas être président de la FIFA, il va dire OK.
Après, peut-être que Elton, on te dit tu es président de la FIFA demain, tu peux dire OK aussi.
Écoute.
Non, mais il y a tout le monde qui peut dire ça. Après, et après, il faut avoir les 106 voix et c'est ça le plus difficile. Après, à l'UEFA, on sait très bien, pour le moment, on réfléchit absolument à avoir une solution externe à l'UEFA. Parce qu'on ne veut pas que on passe pour le méchant qui a viré Gianni Infantino et que
le pouvoir.
Exactement, et que les confédérations comme l'Océanie, comme la CAF disent non, je veux pas voter pour un Européen qui a viré Gianni Infantino. Donc voilà, on cherche un petit peu une personnalité en dehors de l'UEFA, mais ce qui remonte vraiment là ces dernières heures, c'est vraiment qu'il peut avoir dans les trois prochains mois un congrès extraordinaire. Il y a une réunion très importante la semaine prochaine lors du tirage au sort de la Ligue des Champions à Monaco, autour d'Alexander Seferin, qui va prendre la parole normalement à partir de lundi dans un podcast anglais qui dure plus d'une heure. Il va prendre la parole pour la première fois sur Gianni Infantino. Seferin, on va voir ce qu'il va dire, parce que c'est vraiment
baiser de la mort ou pas.
C'est vraiment le personnage qui ressort grandi de cette histoire et qui ressort vraiment comme une main de fer.
On oublie quand même pas mal de Seferin. En fait, il se fait passer pour le chevalier blanc.
On oublie pas mal qu'à son
actif, il y a quand même une certaine inaction quant à la multipropriété, une nouvelle formule de la Ligue des Champions qui laisse quelque part aussi les petits pays. Bon, c'est pas non plus le chevalier blanc qui prétend.
Et puis fin septembre, t'as le grand congrès de l'EFC, l'ancien syndicat ECA. Et là aussi, tu verras.
C'est Nasser Al-Khelaifi,
avec Nasser Al-Khelaifi président, mais tu verras aussi la position des grands clubs, parce que pour le moment, ce qui inquiète aussi, et beaucoup de discussions tournent autour de ça, c'est que pour le moment, t'as pas de Coupe du Monde des clubs qui a été signée pour 2029. T'avais eu la Coupe du Monde l'année dernière en 2025, parce que DAZN, via des fonds saoudiens, avait financé 1 milliard d'euros sur cette Coupe du Monde des clubs. Mais pour le moment, là, en 2029, il n'y a rien qui a été financé.
Donc, tu es en train de dire que si jamais Infantino n'est plus là, la Coupe du Monde des clubs, elle pourrait disparaître.
Elle pourrait disparaître, ou alors elle pourrait continuer avec le soutien de l'EFC qui serait favorable de poursuivre la Coupe du Monde des clubs. Mais il faudrait trouver un financement parce que la FIFA n'a pas les moyens de dépenser 1 milliard d'euros pour.
Mais il n'y a pas d'attractivité. Mais le vrai point d'achoppement, c'est ça. C'est Seferin qui veut protéger sa Champions League et Infantino qui voulait mettre en avant son championnat du monde des clubs.
Merci Nicolas. Le passage de Roger a beaucoup plu sur WhatsApp. Nicolas nous dit Roger président, les Rennais sont des chialeurs et l'after est anti-PSG. Voilà, et puis j'ai Aï qui nous dit bravo Roger de rééquilibrer cette antenne totalement anti-parisienne. Inversion des matchs entre Rennes et Paris, 4 forces majeures, c'est tout. Voilà. Donc Roger
fait des émules.
À un fan club.
Il fait des émules.
C'est le franc-parler. Bah, je fais partie du fan club de Roger. Hein.
Oh, c'est moi. Bah, même s'il d'ailleurs n'est pas trop apprécié, j'apprécie son franc-parler.
Bah, exactement. Merci Nico. Dans un instant, l'actu bordelaise. Et puis les paris de l'after de la Ligue 1 jusqu'à minuit. À tout de suite.
Me perturber, il faut beaucoup plus. Déjà, je suis Samuel Eto'o.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h23, pile, David Guzman est là, Elton Mokolo, l'after jusqu'à minuit. Bien sûr, oui, avant les paris Ligue 1 de l'after, je voulais qu'on fasse un point sur Bordeaux parce que, donc aujourd'hui, les Bordelais étaient devant le tribunal administratif de Paris avec des arguments, des pièces pour expliquer que le projet est viable financièrement et que donc il faut laisser Bordeaux en National 1 et pas envoyer le club en Régional 1. David, toi qui es sympathisant bordelais, est-ce que tu en sais plus sur la situation et on saura demain ce que décide le tribunal administratif et à ton avis, quelle est la tendance?
Alors la tendance, elle est plus positive que ces derniers jours dans la mesure où d'après mes informations et d'après un article de Sud-Ouest paru ce soir, le tribunal administratif de Paris attendait un avis positif de la DNCG qui en cas d'annulation de la décision de la commission d'appel de la DNCG, donc de rétrograder les Girondins. Grosso modo, si la fédération dit il y a une chance que le dossier soit réexaminé de façon positive, le tribunal administratif donnerait une décision positive qui permettrait aux Girondins de représenter.
T'as compris?
Si, t'as compris.
Je crois que Roger a raison.
Pas du tout. T'écoutais pas.
Non. J'ai rien compris. Le tribunal administratif demain.
Oui, tout à fait. Il doit rendre une décision. Il attend un communiqué de la DNCG.
D'accord.
De la fédération.
Oui. Qui, bah, ok.
De la fédération que.
Qui, ça veut dire que demain la DNCG serait.
Non, qui impliquerait qu'il y a une chance que le dossier soit accueilli favorablement. Grosso modo, le tribunal administratif dit « Moi, je veux bien annuler la décision de rétrogradation si j'ai un signal de la fédération comme quoi le dossier peut être revu favorablement. » C'est un peu compliqué.
Il
était censé démarrer ce week-end pour les Girondins. Mais ils géreront certainement pas la première journée.
Il y a un gros bordel dans ces divisions. Là, on a remis Tours, par exemple, en National 2. National 1 désormais, l'ex-National 2.
Exactement.
Dans une poule où en fait tout le monde s'était déjà organisé, les déplacements, les trucs, donc tout est chamboulé.
Il y aurait potentiellement deux poules à 17, donc avec des nombres impairs au lieu de 16. Donc il y avait un communiqué aussi de clubs qui était pas très contents. Mais là.
Ils ont raison de pas être contents.
Mais il y a une semaine, il y avait quand même très très peu de chances que le dossier soit revu et revu favorablement. Et il y a eu des efforts politique, des efforts médiatiques, des efforts aussi financiers, puisque on rappelle qu'il y a 3 ans d'exploitation qui sont sécurisés. Il y a 10,6 pour la saison prochaine, la saison dernière et les arriérés, et 10 millions qui sont déjà disponibles pour financer les 3 prochaines saisons. Il y a eu
les salaires ont été payés hier.
Les salaires ont été payés hier par les nouveaux.
Enfin, les potentiels salaires du mois dernier.
Les arriérés de salaire. Les arriérés de salaire ont été payés hier. Il y a Jeremy Green qui serait un des actionnaire fort du nouveau consortium qui a fait une interview dans l'équipe où il se veut très positif, très favorable et très bienveillant quant au projet Girondin, qui dit qu'il a un projet sur 10 ans. Donc c'est vrai qu'il y a différents leviers qui ont été activés pour renverser la décision de la DNCG d'appel.
Bon. Très bien. Donc, dans l'actualité du jour, j'ai encore 2-3 trucs. Vous dire qu'à Marseille, après Longoria et Benatia, c'est aujourd'hui le directeur général qui quitte le club. Alors peut-être que personne ne savait qui c'était.
Antonello.
Antonello, ouais. Qui venait de l'Inter.
Alessandro Antonello, il est arrivé il y a quelques mois. Hop, il repart. Merci, au revoir. Et puis alors, un petit coup de mercato quand même pour vous dire que Manu Koné pourrait aller à Manchester City. C'est une des conséquences du départ de Rodri, donc le joueur de la Roma qui était à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, pourrait aller à City qui est intéressé par Manu Koné.
Parce que Manchester City est en train de rebâtir à coups de millions son milieu de terrain avec on parle de Boadi, on parle d'Enzo Fernandez, on parle de Manu Koné. Il y a un besoin urgent et la défaite contre Arsenal en Community Shield n'a pas arrangé les choses.
Il y a beaucoup de départs. Nico Gonzalez potentiellement à Newcastle, Tijani Reinders à Nottingham Forest ou l'Arabie Saoudite. Il y a le milieu est complètement à rebâtir.
Ouais, parce que c'est des accidents.
T'as Kovacic qui a débuté, donc Kovacic qui n'était pas censé du tout être
c'est trop insuffisant pour Manchester City.
Voilà pour le mercato. Bon, les paris de l'after.
Oui.
Alors ça, on le fait tous les ans. Mais là, cette année, on va le faire mieux. C'est-à-dire que Paul Vecchio, notre réalisateur, va tout enregistrer pour pouvoir tout nous ressortir en mai.
Voilà. Aucun problème.
Parce que l'année dernière, on a fait les paris, mais au bout de 3 mois, plus personne ne se souvenait de rien. Et du coup, on n'a pas pu faire le débrief.
Je saurai défendre ces paris avec beaucoup de mauvaise foi en mai prochain.
Je viendrai accompagner d'un avocat, moi. Le même que Bordeaux.
Très bien. Bah oui, méfie-toi quand même. On a différentes catégories. Alors, jusqu'à minuit, on va s'amuser à les délayer. Je démarre par l'équipe top. Alors, l'équipe top, c'est l'équipe qui va nous surprendre cette année, en fait, et qui va faire une belle saison. Les gars, sur qui est-ce que vous misez comme équipe alors, évidemment, dans cette catégorie-là, on n'attend pas à ce que quelqu'un dise le PSG.
Ah mince.
Qui est le grand favori, la Ligue 1.
Non, moi, j'ai le Havre. J'ai le Havre parce que je crois.
Ça, je m'y attendais pas.
Et non, bah c'est pour ça que justement que je suis ravi. Je suis ravi de te scier. Moi, j'ai le Havre que je vois faire bien mieux que
voilà,
depuis
c'est,
sa,
oui, mais
que depuis
c'est,
sa remontée. Je vois le Havre dixième. Je D'accord. vois le Havre dixième parce que j'adore l'attelage d'Embaba, Romain Decolle qui ont fait un travail monumental et titanesque à Dunkerque, notamment un travail de recrutement. Il y a une véritable osmose avec Jean-Michel Roussier, avec Didier Digard qui a été convaincu par cette nouvelle direction. Et j'aime bien ce recrutement qui est équilibré avec Vincent Sasso que Dembaba et Romain Decolle ont connu à Dunkerque, avec des paris Nakamura.
Déjà, ce qui est nouveau à l'Havre, c'est qu'ils peuvent recruter déjà.
Ouais, bah ils pouvaient recruter, mais ils pouvaient pas dépenser. Là, ils ont dépensé sur Junior Manga, qui avait déjà fait un prêt réussi au Havre.
Manga, pas non plus.
Bah oui, mais pour le Havre, c'est très bien. Ils ont fait revenir Amir Richardson, qui avait quand même signé à la Fiorentina, qui avait été excellent en Ligue 2. Josh Maja, qui a certaines certitudes à Bordeaux en Ligue 1 et en Ligue 2. Moi, j'aime beaucoup le panachage de recrutement qu'ils ont fait. Donc, pour moi, une direction renouvelée mais talentueuse, un recrutement astucieux. Moi, je vois le Havre faire une excellente saison.
Bon, avant de donner ton équipe.
Il y a des arsenis, Gilles Vert.
Mais toi, tu t'attendais au Havre, toi ?
Pas du tout.
Merci.
Pas du tout.
Bon, et ton équipe à toi, c'est quoi, là ?
Le Paris FC.
C'est pareil que moi.
Oui, exactement, le Paris FC.
Mais les gars, c'est.
Ah, si, mais attends, quoi ?
Oh, quelle surprise !
Ah, oui, quelle surprise !
Vas-y, non, vas-y, tu l'as développé.
En quoi c'est une surprise ? Le Paris FC tape à la porte de l'Europe dès cette saison.
Ah, sans blague. Ah, tu vas me dire qu'une équipe qui va prendre Sinayoko, Pagis, qui a pris Matondo, qui a pris Zabi, qui a été allé chercher un défenseur central de Brighton. Alors, il tape à l'Europe, c'est une surprise.
Strasbourg, par exemple, Strasbourg a mis beaucoup de moyens et n'a pas tapé la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire?
Mais tu parles à la porte de l'Europe. Encore heureux qu'il tape à la porte de l'Europe.
Ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'un club qui a la réalité d'un promu la saison dernière. Et qui là, tout de suite, à la fin de la saison 2026-2027, est aux portes de l'Europe.
Le Paris FC aujourd'hui est une tête de club européen.
Exactement, européen.
Voilà, mais c'est pas forcément une surprise. Tu me dis top. Si tu à la rigueur un top, si tu me dis une surprise.
Les mecs, ils n'existaient pas il y a 3 ans.
Alors David, on va énumérer. Donc, en fait, si le PFC fait Europa League, ça veut dire qu'il passe devant des clubs qui sont beaucoup plus installés. Donc, ça veut dire que tu passes potentiellement devant des clubs comme Lens, comme Lille, comme Monaco, comme l'Olympique de Marseille ou l'Olympique Lyonnais. Qui serait une performance en soi.
Mais il y a quand même des moyens. Il y a Rosignor. Il y a pas de Coupe d'Europe. Quand tu fais Pagis, Sinayoko, Coppola.
On parle de deux joueurs
Coppola,
dans la
Matondo.
Avec tout le respect, on parle de deux joueurs de deuxième partie de tableau Ligue 1.
De très bonnes deuxième partie de tableau Ligue 1.
Voilà. Mais c'est, pour l'instant, c'est des joueurs de la Ligue 1 multiplex. Pas de la Ligue 1 premium. Moi, je fais un distinguo là-dessus. Pagis, il a brillé dans une équipe qui a terminé 9e de Ligue 1. Sinayoko, il a brillé dans une équipe qui a terminé 12e de Ligue 1.
Il a vraiment brillé, pour le coup.
Elle est là, leur réalité. Et là, tu leur demandes de jouer l'Europe.
Non, tu leur demandes rien, puisqu'au contraire, en fait, si tu veux, ils n'ont pas vraiment. Pour moi, ils n'ont pas assez de pression par rapport à l'actionnaire. Mais le Paris FC en Coupe d'Europe, je ne serais pas complètement scié.
Tu commences à venir de.
Non, mais je ne serais pas complètement scié. Donc, je suis surpris que tu le mettes dans les tops, dans la mesure où. Je ne vais pas te dire que c'est la normalité. Je veux dire, ils ont réussi leur saison. Mais c'est pas. Je suis pas ultra surpris.
Si le Paris FC est Europa à la fin de l'année, ils auront surperformé. Par rapport à ce qu'on attendait d'eux.
Oui, mais moi, je ne l'aurais pas mis en top.
Le débat s'arrête là.
Je l'aurais pas mis en top. Je ne suis pas ultra surpris.
Accueillons Romain, qui a préparé lui aussi ses petites catégories et qui va donc s'amuser avec nous à passer tout ça en revue. Salut Romain.
Bonsoir Gilbert, bonsoir messieurs. Salut, comment allez-vous?
Ça va et toi?
On va très bien.
Tout va bien.
Ton équipe top de la saison, c'est qui?
Je mettrai le Stade Rennais, Gilbert, pour plusieurs raisons.
Ouais.
Déjà parce que je vois, alors on va prendre en compte, si bien évidemment Dembélé ou Gvara ou Doué jouent 30 matchs, ça sera une des trois le meilleur buteur. On part un peu dans l'idée comme chaque année où au PSG les buts se répartissent sur plusieurs gars et les mecs ne jouent pas toute la saison. Je vois bien Esteban Le Pon le meilleur buteur une fois de plus et je trouve qu'ils ont eu un recrutement très 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 judicieux. Thomasson au milieu de terrain, c'est une valeur sûre de Ligue 1 et on sait ce qu'il sait faire et on sait ce qu'on attend de lui et ce qui est bien, ben c'est qu'il est bon pour ça. L'attaquant devant de Sunderland, Mayenda, voilà. Je pense que c'est un excellent profil et je suis d'ailleurs très surpris qu'il parte de Sunderland. Et avec l'ossature qu'ils ont, en plus de ça, Rennes a fait signer 9 jeunes. Il y a 9 jeunes qui ont signé des contrats pro. Et vous regarderez les noms, messieurs, c'est très drôle. Il y a des noms très connus. Il y a le petit frère Brassier, le petit frère Truffert, le petit frère Hugo Chocu.
Ils ont recruté les petits frères.
Ouais, non, mais c'est rigolo, Gilbert, parce que leurs frères ont réussi avant eux, qui passent pro. Donc 9 jeunes qui intègrent aussi le groupe. Je les vois vraiment capables d'être solides et je les vois surtout là parce que je vois pas mal de défaillances chez les autres. C'est surtout pour ça.
Donc ça veut dire que si Rennes est au top, ça veut dire que tu vois Rennes finir dans top la zone 3. Ligue des Champions, quoi. Donc
oui,
top 3.
Ouais, ouais. Oui, ben oui, parce que je vois personne à part le PSG et Lens qui se détache. Et je pense qu'à ce petit jeu-là, regardez la saison dernière, messieurs, ça se joue à une journée. Nous, l'OM, on gagne à la dernière journée, ça se joue à un point près, enfin, ça se joue à rien, et au final, le PSG est champion avec 6 points contre Lens. Ils ont géré oui ou non, ils ont choisi leur match oui ou non, la finalité, il y a 6 points d'écart.
Donc Rennes serait le Lens de cette année pour toi. Bah attends, Romain, reste avec nous parce qu'on va passer maintenant à l'équipe qui va flopper dans quelques instants. On continue petit pari jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Jean, on commence. Romain au 32-16 qui est avec nous, David Guzman, Elton Mokolo, pour continuer nos paris Ligue 1 de la saison. Passons maintenant à l'équipe qui va faire un flop cette année. Tiens, Elton, c'est toi qui démarre.
Désolé, mais je vais aller sur le Stade Rennais. Je vais aller sur le Stade Rennais.
Ah là, c'est l'anti-Romain, là.
Non, ouais, pour le coup, Romain, je vais aller de l'autre côté, parce que le Stade Rennais, moi, j'ai beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations sur son back four, ou plutôt sa défense à 4, avec notamment, il y a Criswell qui vient d'arriver, mais l'attelage, Jaïd Boudlet qui pourrait partir, Franco Skinajida. Moi, c'est beaucoup plus une défense à 5. Et pour moi, l'incertitude défensive, ça va être le fil rouge de la saison rennaise. Et pour moi, c'est rédhibitoire pour espérer aller en Ligue des Champions. Donc moi, Rennes, ce manque d'équipe libre va leur coûter cher.
Et tu les vois où, flop?
Flop hors top 5. Ouais. Par rapport à tout ce qui a été dit, et notamment sur le fait qu'ils avaient...
Donc moins bien que l'année dernière.
Moins bien que l'année dernière.
Romain, c'est qui ton flop à toi?
Gilbert, désolé, c'est ton équipe.
Ah, eh ben écoute...
Mais tu les vois où? Quand tu dis flop, tu les vois où?
Chacun son point de vue.
Ah, je les vois deuxième partie de tableau et plus 14-15
ah, que 9-10. Ben, moi, Romain, effectivement, l'an dernier, à la même époque, je t'aurais sans doute mis Strasbourg dans l'équipe top. Et j'aimerais pas, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, c'est la vérité. Un chamboulement complet d'effectifs, un nouveau coach.
Une perte qualitative, Gilbert, depuis plusieurs saisons, quand même. Enfin, t'es quand même passé d'André Santos.
Plusieurs saisons.
Bah, si,
non, quand même. L'an dernier, t'avais une équipe qui était meilleure que l'équipe d'André Santos, hein. Méga, Moreira, Barco,
mais Barco, il était déjà là il y a
Doucouré
est toujours là. T'avais Petrovic il y a 2 ans.
Ouais, là t'avais Penders, c'était bon aussi.
Ouais, enfin, je trouve que depuis 2 ans, t'as quand même
là, t'avais Panicelli, tu l'avais pas avant.
C'est ça, c'est Panicelli, ça va être un vrai problème, c'est pour ça aussi.
Allez, il va revenir, Panicelli.
Alors, il va revenir, Gilbert, mais le temps qu'il revienne. Il y a quand même une base et des joueurs qui restent et qui vont vous faire du bien, mais je pense honnêtement, au vu des attentes que peuvent avoir vos supporters et
quand même. L'objectif de Strasbourg, c'est d'être européen.
Ah oui, non, mais le nombre de joueurs que vous avez perdu, Gilbert, c'est incroyable. Bah, c'est pour
170
ça que
millions d'euros de ventes, je le dis tous les soirs depuis le début de la semaine.
C'est pour ça que je les vois en flop et j'avais un doute. J'ai hésité pour les flops à mettre Lille. Alors,
c'est mon flop à moi.
C'est le mien.
Ah, Alors, c'est pour ça que... Alors, pourquoi les gens doivent être surpris quand on donne des grands noms comme ça? Ben forcément, si une équipe flop, ben c'est que c'est une grande équipe de base sur laquelle on a de l'attente.
Oui, si Lille flop, c'est qu'ils ne sont pas européens, par exemple.
Moi, c'est, voilà. Lille, j'ai Lille 8e, moi.
C'est, voilà, je vais vous laisser vous exprimer du coup. Pour moi, il y a deux, ben, il y a deux interrogations. C'est David Ancelotti, avec tout le respect que pour lui, j'ai jamais eu la prétention et le talent d'avoir des équipes. Mais bon, c'est quelques mois Botafogo fin 2025. Sinon, c'est surtout, et c'est un rôle quand même prépondérant, mais un rôle de second. Et je pense surtout, l'erreur qu'il va faire, c'est de vouloir adapter son style et ses convictions du football. Et on l'a vu à maintes reprises que la Ligue 1 était un championnat particulier. Et ben, de devoir jouer les deux tableaux et de devoir s'adapter, je pense que ça va être pour lui rédhibitoire. Et le dernier point, Bouadji, c'est pas la même équipe avec ou sans lui pour cette saison.
Moi, c'est... Là-dessus, je serais plus nuancé.
Moi, c'est pas vraiment Boisy. Moi, j'avais le LOSC. T'as raison pour David Ancelotti, qui est un entraîneur qui, à mon sens, a un poste un peu démesuré par rapport à son expérience. Et moi, je suis pas fan des adjoints qui viennent de l'extérieur. Tous les anciens grands adjoints, que ce soit Rui Faria, Paul Clement, Pep Lijnders, ça a été très difficile. Et je trouve que, pour
après,
une équipe,
un contre-exemple avec Flick.
Oui, bah, si avec Flick, t'as toujours des contre-exemples, mais pour une équipe qui a une place garantie, qui a une place garantie en Ligue des Champions, pour une équipe qui a déjà quasiment 100 millions d'euros de ventes garanties, je trouve que il y a trop de postes où il y a des incertitudes. Au poste d'avant-centre, c'est très compliqué. Giroud blessé, Higaman blessé, Fernandez Pardo qui fait une colère pour partir. En défense centrale, t'as perdu beaucoup d'expérience. T'as perdu Mandi, t'as perdu Mbemba, t'as N'Goy qui va être le roc de la défense, mais il est aussi fragile physiquement. Alexandro qui revient de blessure, Tanguy Nianzo qui revient de saison aussi impactée par les blessures. T'as poste derrière droite, Thiago Santos qui revient de blessure. T'as beaucoup d'interrogations. T'as pas un ailier qui se dégage vraiment. On va attendre de voir ce qu'on y a.
Même pas top 10 en termes d'investissement cet été en Ligue.
Pas encore, parce que je pense que t'attends aussi Boadi pour te renforcer. Mais je trouve que.
Bon, alors avançons.
T'as trop d'incertitudes.
Tout à l'heure, Romain, tu nous as dit Le Pol meilleur buteur. Moi, j'ai mis aussi Le Pol meilleur buteur. C'est pas très surprenant, peut-être, mais.
Il y a une duo qui peut se détacher. Parce que si on prend Gilbert et hors PSG, comme je t'ai dit, Openda, il peut faire quelque chose aussi. Hein.
Ah,
Openda,
ouais.
Il peut faire quelque chose. Il y a une pièce à mettre. C'est pour moi.
Et toi, le Marseillais, tu nous mets pas Gouiri, par exemple.
Alors, non, mais j'allais vous dire, les gars, vous avez pas dit l'OM en flop, parce que pour vous, on n'est pas considéré comme un top.
Attends, je vois quatrième.
On arrive.
Ah, voilà. Non, ben Gilbert, le problème, c'est que le style de. Est-ce qu'on a Bruno Genesio ou est-ce qu'on a Pep Genesio? Et est-ce qu'on a Pacheco, est-ce qu'il va rester ou non? Gouiri, est-ce qu'il va rester ou non? On verra l'état de l'effectif, mais je vois pas un gars capable d'être décisif plus de 20, 22, 23 fois pour aller jouer un titre de meilleur buteur, honnêtement. Donc, je vois plus des buts répartis sur plusieurs gars quand l'effectif sera, on va dire, fixe. Bon, on n'a pas de quoi mettre une burne sur un joueur, quoi. On voit que ça chipote pour 5, 10 millions d'euros. C'est pas cette année que ma
course. Vos meilleurs buteurs, les gars, David et Le Pol aussi?
Moi, je vais aller sur un Parisien, mais pas celui que vous croyez.
Ferran Torres.
Ouais.
Ah, pourquoi? Parce que toi, tu te dis, il va jouer en Ligue 1.
Oui, je me dis qu'il va beaucoup jouer en Ligue 1 et c'est un joueur qui marche à la confiance. Il l'a dit, il va retrouver son père footballistique.
Son ex-beau-père
et son père footballistique, Luis Enrique.
Il a été le compagnon de la fille de Luis Enrique.
C'est vrai. Et il vient de sortir de la meilleure saison statistique de sa carrière, quand même, 16 buts en Liga. C'est quand même 40 buts sur les deux dernières saisons avec le Barça. La suite logique, c'est avec le PSG double champion d'Europe, c'est d'arriver au chiffre 20. Et moi, je me dis que Ferran Torres, meilleur buteur.
J'ai une catégorie qui me plaît bien. On revient dans les équipes, là. C'est un peu l'équipe Casper de la saison. C'est l'équipe que tu vas traverser la saison comme ça en mode verra se passer quoi, ventre mou. Chiant.
Moi j'en ai une et je pense que ça va leur faire du bien. C'est Nice. Je pense que Nice va passer une saison en paire tranquille. Ils ont fait un recrutement cohérent de paire tranquille et ça va leur faire du bien après les débordements de la saison dernière de passer une saison en paire tranquille. Ouais, en leur souhaitant une vente.
Je vais un peu surprendre mais je vais dire Brest. Par rapport à ce qui s'est passé, la perte d'Éric Roy, je pense qu'ils vont quand même se maintenir en Ligue 1, mais pas avec un football aussi prononcé que la saison dernière, ou même il y a deux saisons, parce que moi je les appelais Liverpool du Finistère. Là ce sera moins le cas, ce sera une équipe un peu plus rationnelle footballistiquement.
Très bien, moi je vais vous dire Lorient.
Lorient, ouais. Je les vois bien la petite saison.
Moi, je les vois pas, Lorient. Je trouve qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. Je les vois pas, je les vois barragistes.
Attends. Très bien. Toi, t'as une équipe, Romain, une équipe Casper comme ça, là, qui.
Je suis d'accord pour Nice. Je suis d'accord pour Nice parce que, ben, justement, pour qu'elle soit Casper, c'est qu'on ait un peu envie de la regarder. Voilà, il y a des choses un peu qui donnent envie, mais ouais, non, je suis d'accord pour Nice. Et une équipe aussi, mine de rien, qui pourrait passer à travers les radars comme ça, mais même très bas, pour moi, c'est Auxerre. Hein.
Ouais, mais avec Will Steel, tu passeras jamais à travers les radars. Tu seras jamais une équipe Casper quand t'as Will Steel. Will Steel va capter l'attention, il va capter les caméras. C'est pour ça que pour Will Steel, ça passera jamais pour une équipe Casper.
Tiens, ouais, les relégués.
Barragistes et relégués?
Qui vont être? Bah,
j'avais juste les relégués.
Vos trois derniers.
J'ai trois en dernier parce que je trouve qu'ils ont une équipe plus faible que l'équipe avec laquelle ils sont montés. La perte d'Adeline qui avait 10 buts, 10 passes décisives de Tourbé et de Ben Taïeb a pas été remplacé. J'ai Angers parce que je pense que Angers s'affaiblit d'année en année. Même si je suis convaincu par leur recrutement, je suis pas certain que Stéphane Gilly soit l'entraîneur pragmatique.
Mais t'as copié sur moi ou quoi?
Non, pas du tout. D'accord.
Moi,
j'ai Lorient barragiste parce que.
Moi j'ai un autre barragiste.
Je trouve que Lorient a pas remplacé Bamba Dieng, a pas remplacé Laurent Abergel, a pas remplacé Pablo Pagis, a pas remplacé Bamo Meite et que ça fait toute une colonne vertébrale en moins. Donc je suis un peu. Je suis désolé pour l'accent du jeu que j'aime beaucoup, mais je les vois barragistes.
Au final, on a quasiment tous copié parce qu'on est quasiment d'accord.
Pareil, toi, Melton, pareil.
Moi j'ai Troyes qui descend et j'ai Lorient qui descend.
Carrément.
Ouais, Lorient qui descend parce que moi je pense qu'ils peuvent être impactés par la dernière.
Tout le monde voit Le Mans se maintenir.
Ouais. Non, et Le Mans, j'ai mis barragiste.
Je les vois se maintenir.
Moi j'ai un barragiste qui peut peut-être vous surprendre, c'est Toulouse.
Ah, par rapport à la méthode Ascou.
T'as pas d'assurance, l'équipe, ça bouge aussi.
Moi je pense que ça va mettre du temps à bien aller, mais que ça ira bien. En fait, j'ai vraiment envie que ça aille bien parce que cet entraîneur me plaît dans le discours, me plaît dans ce qu'il a fait, et j'aime ce recrutement un peu qui sort des sentiers battus. Et ils viennent de battre le record de recrutement, et il faut saluer l'audace.
Ce qui peut aller dans le sens de Gilbert, c'est que t'as perdu Creswell, Caceres pourrait être attaqué dans les derniers jours du mercato.
Tu vas perdre Beau, mais là ils réinvestissent.
Oui, ils réinvestissent, mais on parle de joueurs qui
Metalli devrait partir normalement.
Ouais, mais t'as dit qu'il devrait partir, donc on parle de joueurs qui doivent absolument être vraiment fiables pour t'assurer notamment cette 10e place ou 9e place de Ligue 1.
Romain, t'as été relégué?
Oui, alors je vois en dernière position Lorient. Je suis assez d'accord avec vous, j'étais inquiet pour eux et je vous explique pourquoi je les vois dernière. Je mets 3 19e parce que je vois quand même 3. J'adore leur gardien, Patrick Beach. Je l'adore, l'Australien.
Ah oui.
Qui a joué titulaire à la Coupe du Monde. J'aime beaucoup ce joueur. Et je vois quand même une équipe qui a envie de jouer au ballon. Et très honnêtement, en Ligue 1, déjà de mettre l'envie de jouer au ballon, ben c'est bien. Et en barragiste, un peu par affection pour le coach du Mans, Patrick Videra, qui a eu pas mal de clubs dans le sud de la France et en Corse. Je les vois barragistes au forceps et après ben advienne que pourra pour eux avec la Ligue 2, mais voilà les clubs que je vois dans la nacelle au vu de leur effectif et au vu aussi un peu des calendriers de chaque équipe. Quand j'ai préparé le sujet, j'ai regardé ça vite fait. Vous verrez que pas toutes les équipes ont le même calendrier aux mêmes périodes et que ça ben on se rend compte aussi que ça joue énormément en fin de saison.
Romain, t'as bossé, bravo.
Jouer le PSG à la fin, c'est pas la même chose que de les jouer en pleine bourre quand ils ont qu'un match par semaine. Vous voyez, dans les dernières journées, des fois, ils lâchent des points et certaines équipes auront plus de facilité.
Dans un instant, on va continuer à parler des coachs. On va essayer de voir qui va être l'entraîneur de l'année, qui va être le premier entraîneur viré. C'est le début de la Sac Race ce soir. Et on est comme ça, on démarre la Sac Race alors que le championnat n'a pas commencé. Et puis, la recrue de l'année, la meilleure recrue de l'année, la pire recrue de l'année. On va également se poser la question de savoir qui va être le tube. Le non-tube de l'année, c'est-à-dire celui qui a brillé. Enfin, c'est pas très clair mon truc. C'est le tube de l'été qui ne va pas briller. C'est clair? C'est mieux comme ça?
On a plus ou moins compris, on va dire.
Très bien.
Un Traoré qui brille en été, qui s'éteint après.
Le Alain Traoré, voilà. Exactement. Et c'est la bonne définition. Allez, à tout de suite, il nous reste un petit quart d'heure ensemble.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h50, Elton Mokolo, David Guzman et Romain avec nous, auditeur de l'After, toujours là pour nos petits paris Ligue 1. Ça démarre demain soir avec Marseille-Strasbourg, ce sera sur RMC. D'ailleurs, After exceptionnel demain soir, puisque toute l'équipe sera au Stade Vélodrome. Jérôme Sillon, qui désormais... Jérôme Sillon qui désormais présentera l'After du vendredi soir, sera là avec Daniel Riolo qui sera au Stade Vélodrome. Je répète, Daniel Riolo sera au Stade Vélodrome. Et Walid Acharchour sera aussi au Stade Vélodrome. Voilà, rentrée de Walid demain.
Il en a assez profité des vacances.
Exactement. Qui sera l'entraîneur de l'année, Elton?
Transition toute trouvée, et moi j'y crois fort. Bruno Genesio.
Ah tiens.
J'y vais. Bruno Genesio, parce que il y a beaucoup d'avis sceptiques, il y a beaucoup entre guillemets de non-croyance sur ce que va faire l'Olympique de Marseille, et c'est justement là qu'apparaît Bruno Genesio sur sa capacité à tirer le maximum de son effectif, d'établir un cordon sanitaire autour de son équipe et de la rendre compétitive. Et moi, je vois Bruno Genesio entraîneur de l'année.
Parce que l'OM aura fait.
L'OM sera sur le podium Ligue 1.
Ok.
Voilà. C'est acté.
Dino Topmöller. Moi, j'avais fait un avis, tranché il y a une semaine pour dire que, à mon sens, le Racing Club de Lens était back-to-back Ligue des Champions. Je pense que les principes de Dino Topmöller sont visibles et ont été visibles contre le Paris Saint-Germain. J'adore en fait le recrutement qu'a fait Lens, complètement cohérent. Chaque poste, chaque départ a été remplacé. L'effectif s'est même étoffé avec des jeunes du centre de formation qui prennent de l'ampleur. Kylian Antonio, Ryan Fofana, Smaïlo Gagnou. Donc moi, Dino Topmöller, podium, entraîneur de l'année.
Romain, ton entraîneur de l'année, c'est qui?
Et si je reste cohérent, Gilbert, avec ce que je vous ai dit, du coup, c'est Francaise, vu que je vois Rennes faire podium.
C'est vrai, c'est cohérent.
Je le vois tirer le meilleur de son effectif. Je le vois surtout profiter. J'entends les doutes peut-être sur la défense. J'accorde plus de crédit au milieu de terrain qu'à la défense, parce que, écoutez, prendre un but, ça... C'est sûr que c'est pas bien, mais d'avoir la capacité de maîtriser le milieu de terrain en Ligue 1 et d'avoir des profils d'attaquants comme ils ont, c'est vraiment trop, trop décisif en Ligue 1. Donc je les vois et je vois Francaise, tirer le meilleur de son effectif et être le meilleur entraîneur de Ligue 1 pour cette saison.
Et moi, je vous dis que ce sera Rosenior. Parce que je l'ai vu faire.
Pour le coup, t'es cohérent.
Je suis aussi cohérent. Je l'ai vu faire à Strasbourg. Vous allez voir que le PSG va très bien jouer. Il arrive à révéler des joueurs. Je pense que Pagis va être son élément central. Et je pense que Rosenior va complètement se racheter. En plus, là, il est tranquille financièrement. Il va prendre un chèque de 20 millions, là. Donc là, il est détente. Tu vois, il n'y a plus de pression. Donc, Rosenior sera l'entraîneur de l'année.
L'entraîneur de l'année.
Voilà. Maintenant, on démarre la sac race. Évidemment, c'est pour rigoler. Jingle. Voilà, jingle sacré, c'est avec notre ami Guy Lacombe à Monaco à l'époque, qui claque les portes. Alors évidemment, compliqué de dire aujourd'hui qui sera l'entraîneur, qui sera le premier à se faire virer cette année.
Démission, ça compte aussi.
Démission, ça peut aussi marcher.
C'est pas tout à fait pareil quand même.
C'est pas un sac.
Démission, c'est pas sacré.
Resignation race.
Voilà, c'est pas la même chose.
Pas de soucis. Hugo Oliveira,
j'étais sûr que vous alliez me sortir ça. C'est un scandale.
Non, en fait, tu sais, parce que il a un effectif complètement remanié, qu'il est nouveau et que il y a des objectifs importants à Strasbourg, des objectifs qui sont financièrement aussi importants, parce que Gilbert n'est pas sans savoir que Strasbourg a reçu une lourde amende pour non-respect du squad cost ratio de l'UEFA, et j'ai peur que cette espèce de non-alignement entre les objectifs et la durée qu'il va falloir pour faire infuser tous ces nouveaux joueurs et faire infuser sa méthode ne pousse Blouko à un excès d'emportement et à changer rapidement d'entraîneur si ça fonctionne
pas. Moi, c'est beaucoup plus sur l'aspect football, parce qu'il a des principes de jeu qui sont quand même très poussés.
Ah, donc toi aussi, t'es Hugo Oliveira?
Ouais, Hugo Oliveira, parce que il a des principes de jeu qui sont très poussés, très avancés, avec notamment l'utilisation du gardien. Et moi, je me dis que par rapport à son groupe, ils sont pas assez matures pour pouvoir appliquer tout ça dans un contexte compétitif de la Ligue 1. Et donc, moi, je me dis que rapidement, ça va pas le faire.
Romain?
Je le vois de deux manières. Si on prend que la logique sportive, je vois bien Alexandre Dujeu à Lorient, justement, ne pas réussir à prendre, on va dire, ses responsabilités, parce que là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde en moins. Et si on prend une logique un peu plus large, une équipe comme Troyes, dans cette logique un peu de groupe avec Manchester City, tout ça, je pense que si Stéphane Dumont ne fait pas une bonne première partie de saison, il n'aura pas de quoi avoir 6 mois de plus pour essayer de se...
Ils vont faire une Kiss Norbo Bruno Herles à l'époque, quoi.
Ouais, ou une Antoine Comboiré, un peu comme ils veulent, mais oui, il y a de quoi faire en décembre. Et après, vous y avez pensé, bravo. Si on doit donner un coach qui part, c'est fou à dire, mais ça sera chez nous. S'il y en a un qui dit, ben, je pars...
Ah, un démissionnaire.
Moi, j'y crois pas, moi. Moi, je pense qu'il est vraiment dans son environnement et que je le vois pas du tout là-dessus.
J'espère, parce que je vous le dis, vous allez le voir demain. C'est compliqué. Ouf, qu'est-ce que c'est ce sport? C'est quoi ce sport de s'asseoir dans un stade? Demain, on va s'attendre à l'inattendu. On y va. On se dit, ça va le faire.
Ah, c'est vrai que demain, c'est assez étrange, en effet. Je suis assez d'accord avec toi.
Mais ils ont été assez corrects en préparation, en fait.
Ils ont même montré de bonnes choses.
Ils ont même
la prépa et la compète. Il y a toujours des...
Ouais, je suis d'accord, mais je suis pas inquiet outre mesure avec l'effectif à disposition actuellement.
J'ai pas envie d'être inquiet sur l'Olympique de Marseille.
Bon, attendez, on n'a pas fini, là. Il nous reste 3 minutes. La recrue de l'année.
Ivanovic.
Franck Jo.
Exactement. Ivanovic. Je vais sur lui parce que par rapport à ce qu'il a pu montrer contre le PSG jusqu'à sa sortie et globalement sur ce qu'il a pu montrer notamment du côté de l'Union Saint-Gilloise, moi je me dis que c'est le bon contexte avec un entraîneur qui est connu pour avoir fait éclore Marmouche et Kitike pour ne citer que, et que ce système à 2-3 attaquants du côté de Lens est le plus à même à faire à montrer la meilleure valeur d'Ivanovic, et donc moi je me dis 22 ans c'est le bon moment pour lui.
Déjà parlé avec Gilbert Pablo Pagis. Voilà. Pablo Pagis. Tout simplement.
Pagis, très bien. Et Romain, t'en as une recrue de l'année?
Je pense vraiment que Mayenda à Rennes, c'était
Moi, je l'avais en flop, pour te dire. Je l'avais en flop.
D'accord. Moi, c'est vraiment le profil du joueur et la manière de jouer.
Moi, c'est le prix 22 millions pour un joueur en fait qui, je vois pas vraiment où il va s'insérer en fait dans le schéma tactique de Francaise. Bon, écoute.
Et j'aimerais finir avec la révélation de l'année. Mm-hmm. C'est-à-dire le jeune qu'on connaît déjà et qui va, tu vois, cette année exploser.
Ou qu'on ne connaît pas. Ou qu'on connaît pas. Thomas Jørgensen, plus grosse recrue de l'histoire de Toulouse, milieu offensif. Tout ce qui est passe progressive, créativité. C'est un vrai effort de recrutement de Toulouse, un joueur qui était...
Moi, j'ai une révélation de l'année. Vous l'aurez entendu dans l'after à 23h58 le 20 août. Même si Lille, je l'ai mis dans mes flops, mais je pense que Ethan Mbappé va faire une grosse saison.
Ok.
En révélation.
Ah, si les blessures le laissent tranquille.
Ouais, voilà, c'est surtout ça.
Voilà.
Elton.
Et moi, je vais aller sur une nouvelle recrue du PFC, Zabi La Magie. Patrick Zabi. Voilà, je vais
tu penses qu'il va avoir du temps de jeu?
J'ai aussi Martial Godot. Hein. S'il y en a un à Strasbourg qui va être bon, c'est lui.
Ouais, mais attends, Martial Godot, il était déjà l'année dernière.
Il a été bon 2 mois.
C'est suffisamment pour que, par rapport à la section ivoirienne, on se dise pourquoi il n'est pas dans la liste.
Tube de l'été, on a le temps, tube de l'été?
Parce que moi, ah oui, le fameux tube de l'été, vas-y.
Le Aminarit, je le vois tellement fort en tube de l'été.
J'ai pensé.
Un peu comme à Brest, il y a 2 ans.
Quand il va disparaître.
Quand il avait été.
Moi, mon tube de l'été, c'est Birette.
Ok, ouais, bah, en plus, tu l'as dit avant qu'il marque.
Avant qu'il marque ce soir.
Mon tube de l'été, c'est Haraldsson. Il fait partie des meubles lillois, il est toujours présent. Il va faire un vrai bon début de saison et après, il va s'écrouler.
Romain, t'as un tube de l'été?
Oui, je me languis de voir Ortega. À Strasbourg, au vu de ce qu'on dit de Jacobo. Lui au de Madrid.
Ouais, 14 millions d'euros, ouais.
Ouais. Bon, personne n'a vu, donc on verra bien.
Je suis très curieux de voir Pablo Pagis évoluer sous Rosenior et au Paris FC de cette manière. Je pense que lui, ça peut être quelque chose. Et pour terminer, je pense vraiment que cette année, c'est l'année de Désiré Doué. Je le vois vraiment, vraiment... selon comment ça se passe là en plus pour le Ballon d'Or, je le vois vraiment écraser la Ligue 1.
Positionne-toi donc meilleur joueur de Ligue 1, c'est ce que tu dis?
Ah mais honnêtement, mais sans aucun souci, c'est... Je pense vraiment...
Toi le Marseillais
la... mais Gilbert, c'est pas... Avant d'être Marseillais, j'aime le foot. J'aime le football, le coup, c'est particulier. Mmh. Mais t'imagines de vivre ce qu'ils ont vécu à Munich?
de prendre l'Inter, d'en mettre 5, d'avoir un Minot qui rentre à la 85e.
Romain, merci. On a dépassé le chrono. T'as super bien joué le jeu. Merci à toi.
Merci,
bravo.
Au plaisir. Bien préparé, merci, messieurs. Une bonne soirée.
Et bonne soirée. À bientôt dans l'After. Salut, David. Salut, Elton. Salut, l'After revient demain, donc en direct du Vélodrome, dès la fin de Marseille-Strasbourg. Ça y est, la Ligue 1 est de retour dans l'After. Bonne nuit à tous.
RMC, l'After Foot.